C'est le début d'une semaine sur les essais de Montaigne, la merveille des merveilles, où ceux qui cherchent un système, des principes, des arguments et des preuves en sont toujours pour leurs frais, ce qui leur fait croire à tort d'ailleurs que Montaigne n'est pas philosophe. Illusion de celui qui, prenant ses désirs pour des réalités, demande peu de choses à la philosophie, sinon de lui bâtir un monde tout en être, un monde en certitude et en objets déduits, un monde abstrait, manipulable, providentiel, bref, un monde à taille humaine. Or, telle n'est pas l'ambition de Montaigne, qui, tout en maintenant le regard à hauteur de sa petite taille, 1m59, entreprend de lire le monde indépendamment de lui. Si Montaigne se détaille, se fouille, se fouaille, s'éclate à se chercher, disséquant à l'occasion ses propres préjugés, ce n'est pas du narcissisme. Mais c'est que, de même que l'intelligence de la nécessité est en soi un début de liberté, eh bien, de même, la connaissance, l'exploration, la dissection joyeuse des petites causes misérables qui déterminent nos pensées permet paradoxalement de se débarrasser un peu du « moi » et de tourner enfin son regard vers le monde qu'il voudrait asservir. Si la philosophie consiste à s'étonner du monde ordonné que nous lèguent les marchands de systèmes, alors les essais de Montaigne, auxquels cette semaine d'entretien est un hymne et une déclaration d'amour, sont à tous égards un chef-d'œuvre de philosophie. Un chef-d'œuvre dont nous allons vous parler depuis le château de Montaigne, au coin du feu, en compagnie successivement de Frédéric Brahami, Ali Ben Maclouf, Bénédicte Boudou, mais d'abord son biographe, son lecteur et, si j'ose dire, son ami Jean-Yves Pouilloux.
Nous sommes pour nous un objet plein de mécontentement. Nous ne voyons en nous que misère et vanité. Pour ne pas nous faire perdre courage, la nature a rejeté bien à dessein l'action de notre vue au dehors. Nous allons en avant à volo, mais inverser notre course vers nous, c'est un mouvement pénible. Les flots de la mer se brouillent et s'embarrassent ainsi dans leur action quand ils sont repoussés sur eux-mêmes. Regardez, dit chacun, les mouvements du ciel, considérez le public, la querelle de celui-là, le pouls d'un tel, le testament de cet autre. En somme, regardez toujours en haut ou en bas, ou à côté, ou devant vous ou derrière. Le commandement que nous faisait dans l'Antiquité le dieu fameux de Delphes était un commandement paradoxal. Regardez en vous, connaissez-vous, attachez-vous à vous. Votre esprit et votre volonté qui se dépensent ailleurs, ramenez-les en eux. Vous vous écoutez, vous vous répondez. Concentrez-vous, tenez bon. On vous trahit, on vous disperse, on vous dérobe à vous-même. Ne vois-tu pas que ce monde garde toutes ses vues resserrées au-dedans et ses yeux ouverts pour se contempler lui-même? C'est toujours de la vanité pour toi, dedans et dehors. Mais elle est moins vanité quand elle est moins étendue. Sauf toi, ô homme, disait ce Dieu. Chaque créature s'étudie la première et a, selon son besoin, des limites à ses travaux et à ses désirs. Il n'y en a pas une seule d'aussi vide et d'aussi nécessiteuse que toi qui embrasses l'univers. Tu es le scrutateur sans connaissance, le magistrat sans juridiction, et après tout, le sceau de la farce.
On a beaucoup parlé des héritages montagniens, notamment chez Nietzsche ou chez Pascal. On évoque moins Schopenhauer et Schopenhauer insiste sur le fait dans un texte fameux. Schopenhauer dit ceci, je le lis, il dit « La vie de chacun de nous à l'embrasser dans son ensemble d'un coup d'œil est une véritable tragédie, mais quand il faut pas à pas l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. » Elle y met toutes les douleurs de la tragédie, mais pour ne pas nous laisser au moins la dignité du personnage tragique, elle nous réduit, dans les détails de la vie, au rôle du bouffon. C'est intuitif, ce rapprochement, Jean-Yves Pouilloux, non, mais est-ce que vous y souscrivez ?
Oh, tout à fait, tout à fait. Non, c'est un texte qui est remarquable, le texte de Schopenhauer, et qui est un texte qui, je crois, renvoie très directement et explicitement à Montaigne, à cette fin de l'essai de la vanité, qui est un essai aussi, qui est très ondoyant, qui parcourt, comme d'habitude d'ailleurs dans beaucoup de textes de Montaigne, qui parcourt à peu près tous les sujets, parce que manifestement, c'est pas le sujet, il n'y a pas un sujet qui l'intéresse plus qu'un autre. Il dit dans un autre essai, dans l'essai 5 du livre 3, il dit « Tout argument m'est également fertile, je le prends sur une mouche ». Et ça dit bien, je crois, qu'il n'y a pas de grands sujets et de petits sujets pour qui s'essaye à vivre en conscience, à vivre en étant le plus présent à soi-même possible, que tous les sujets sont bons et que, en fait, on peut aussi bien s'occuper de la manière dont nous enregistrons le monde, dont nous réagissons au monde, au sujet des lois somptuaires, des destriers, de la navigation, des relations entre les hommes et les femmes, du temps, de Dieu. C'est apparemment des sujets petits et grands, et il n'y a pas de petits et de grands sujets pour Montaigne. Tous les sujets se valent.
Ce que vous dites est si vrai, Jean-Yves Pouilloux, que alors, l'essai sur la vanité, c'est l'essai 9 du livre 3.
C'est ça.
L'essai 5 du livre 3 porte sur des vers de Virgile. Mais alors, les vers de Virgile en question ne sont véritablement que le point de départ d'une réflexion extraordinairement vaste. Ce sont d'ailleurs deux des chapitres des essais qui sont parmi les plus longs. En tout cas, le chapitre sur les vers de Virgile est d'une longueur totalement démesurée. Et c'est une longueur qui ne semble pas dictée par la densité du sujet qu'il évoque, mais plutôt par l'humeur badine qui est la sienne à l'instant où il écrit ce texte.
Oui, oui et non, parce que c'est quand même pas n'importe quoi. Il s'occupe des relations entre les hommes et les femmes. Il y va franchement.
Il dit notamment ceci. « L'amour est une passion qui mêle à bien peu de réalité solide, beaucoup plus d'inanité et de rêverie fiévreuse. Il faut la payer et la servir de même. Celui qui n'a de jouissance que dans la jouissance, qui ne gagne que s'il a le tout, qui n'aime dans la chasse que la prise, à celui-là, il n'appartient pas de prendre part à notre école. Plus il y a de marches et de degrés dans le dernier siège, plus il y a d'élévation et d'honneur, métaphore sexuelle, pour désigner la quête du savoir, une quête qui est à elle-même sa propre fin, plus que, de la même manière, quand on fait l'amour, l'orgasme, plus que le but en lui-même. »
Tout à fait, tout à fait. Il dit explicitement, nous sommes sur la chasse et non sur la prise.
C'est la deuxième occurrence, hein, d'ailleurs, de cette métaphore de chasseur.
Il a usé de la même formule dans le chapitre 8 de l'art de conférer, toujours du livre 3. Et c'est quelque chose de très important, je crois, parce que ça dit bien qu'il ne s'agit pas de formuler une opinion, de formuler un avis, d'arriver à un concept, comme diraient les philosophes. Il s'agit pour lui, très explicitement, d'essayer d'éprouver, et c'est ça le sens de « essayer », d'éprouver la manière dont se forment en lui les représentations. Dont se forment en lui les idées, on a dit de Platon qu'il avait un ciel d'idées, pour Montaigne c'est vraiment pas du tout la question, les idées pour lui sont charnelles, les idées sont corporelles, elles sont nées
des
passions.
Nous savons nous vient des sens.
Et ce mouvement corporel, ce mouvement qui est de l'émotion, de la colère, de l'ambition, enfin toutes les choses qui sont par la philosophie morale classique mises à l'écart, Montaigne, au contraire, les met au centre, au commencement de la pensée.
Ce qui nous renseigne également sur la façon qu'il a de faire de la philosophie. Gagnons du temps, Jean-Yves Pouilloux.
Oui, allons-y.
Montaigne est un philosophe.
Tout à fait.
De plein droit, à part
Tout
entière, ce qui ne l'empêche pas d'être un immense écrivain.
Tout à fait.
Mais c'est un malentendu de le réduire naturellement à soit un travail de philosophe, soit un travail d'écrivain. C'est peut-être d'ailleurs un malentendu de séparer les deux. Peut-être que Montaigne nous aidera à revenir sur cette fausse distinction.
Mais quand j'ai avancé cette proposition il y a 40 ans ou quelque chose comme ça, j'ai dit Montaigne est philosophe. Et je me suis fait tomber dessus par tous les littéraires et par les philosophes.
Ce qui prouve que vous aviez raison deux fois.
Peut-être, j'avais tort deux fois, en tout cas.
En tout cas, raison d'avoir tort. Ouais. Mais la façon qu'il a de faire de la philosophie, on dit souvent en philosophie, c'est même un lieu commun, hein, que les questions sont plus essentielles que les réponses. Et c'est une phrase qu'on pourrait, à bon droit, assigner à Montaigne. Sauf qu'en général, quand on dit en philosophie que les questions sont plus essentielles que les réponses, on le dit parce qu'on présume qu'il y a une ultime réponse, certes inaccessible au philosophe, qui donc en a le désir, et vers laquelle il tend. Or, si chez Montaigne, les questions sont plus essentielles que les réponses, ça n'est pas parce qu'elles sont orientées vers un but, mais c'est parce qu'il questionne les questions elles-mêmes, plus qu'il n'apporte de réponse aux questions qui viennent
ça,
en lui.
Ça, je crois tout à fait ça. C'est ça, faire l'épreuve de soi, si je peux dire. Il dit, quand je suis devant une rivière, pour la traverser, je sonde le gué. Et si je vois qu'il est trop profond pour moi, je reste sur la rive, mais au moins j'aurais fait l'essai. Et j'aurais appris qu'il est trop profond pour moi. Et cette image est tout à fait intéressante parce qu'elle montre bien que ce qui est en jeu, c'est en fait un travail sur soi-même, c'est-à-dire faire l'épreuve de soi-même, faire l'épreuve de ce qu'on peut réaliser ou ce qu'on ne peut pas réaliser, de ses limites. Et pour revenir à l'adage de Delphes que vous citiez tout à l'heure, c'est en fait un des deux sens.
Le connais-toi toi-même.
Le connais-toi toi-même, oui. C'est un des deux sens de l'adage de Delphes. Le premier sens, qui est le sens courant et qui me paraît un contresens, c'est essayer de se représenter qui on est. Bon. Ça, je crois que c'est un faux sens. Je crois que c'est un faux sens parce que l'adage de Delphes dit « connais-toi toi-même » en ce sens que tu dois faire l'épreuve de tes limites. Toi, tu es un homme, tu es inscrit dans le temps. Si vous prenez l'énorme texte qui s'appelle l'Apologie de Raymond de Sebon, qui est le grand texte central
du livre 2,
le chapitre 12, Montaigne y fait l'inventaire de toute la tradition philosophique et il termine son essai qui doit faire 150 ou 160 pages. C'est ça, c'est le plus gros essai de tous les essais. Il termine par 3 pages de Plutarque, qui sont prises d'un dialogue de Plutarque qui s'appelle « Sur le epsilon de Delphes », sur le « e » de Delphes. Et le « e » de Delphes, en grec, ça veut dire « ei », c'est-à-dire « tuer ». Et le Plutarque dit, ou plus exactement le personnage qui parle à la fin du dialogue de Plutarque, dit « Le verbe « être » n'a de validité, à proprement parler, que pour Dieu. Non pas pour les hommes, qui sont pris dans le temps, qui n'ont pas été, qui sont maintenant de façon transitoire et qui ne seront plus. Donc la seule personne, et il dit, nous n'avons aucune communication à l'être. Nous vivons dans le passage.
Et l'on retrouve ici l'ambition de Montaigne qui ne peint pas l'être, mais le passage.
Exactement.
Et également, qui dit, il nous appartient de chercher la vérité sans la détenir, il appartient de la détenir à plus grande puissance.
Exactement, c'est la formule même.
Mais alors, se connais-toi toi-même de l'adage de Delphes, dont on a fait, et c'est vrai que Montaigne, en tout cas un Montaigne vu de loin, un Montaigne mal lu ou peu fréquenté, peut nous laisser penser que Montaigne est le champion du monde de l'introspection, de celui qui se fouille, qui s'explore avec une certaine forme de complaisance. C'est même le reproche que lui fera Rousseau, qui s'y connaît en complaisance. Montaigne, en l'occurrence, parle de se connaître soi-même, non pas au sens, comme vous l'avez dit, de se fouiller, de s'explorer, mais au contraire, de savoir quelle est sa place. Il reprend à cet égard le propos platonicien, qui était un propos orphique, inscrit dans une cosmologie d'un monde sensé, où il s'agissait véritablement de connaître sa place, et qui, chez Platon, lui permettait de justifier, par exemple, une critique de la démocratie, qui était le régime où les gens pouvaient changer de place, alors que chez Platon, il faut savoir quelle est sa place et développer son excellence propre, sa vertu propre, dans un registre particulier. Montaigne, et sans être antidémocrate, ce serait anachronique d'ailleurs de poser le problème en ces termes, mais Montaigne nous permet aussi peut-être de critiquer ce qu'on appelle aujourd'hui la performance, qui est un effet de la démocratie, le goût de changer de place, le goût prométhéen de changer de place au profit de la sagesse orphique qui consiste à s'installer quelque part et à s'y sentir bien.
Si Montaigne était là, je pense qu'il vous n'aimerait pas beaucoup que vous lui disiez orphique. Parce qu'il a une vue, il dit, il n'y a rien qui m'agace autant dans Socrate que ces démoneries. Quand le démon de Socrate, c'est pour Montaigne, c'est vraiment une sorte d'aberration. Pour lui, la chose, il dit, c'est la plus basse marche. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de redescendre le plus bas possible, de se ramener au niveau de la terre. Et je crois que cette hantise de redescendre au niveau de la terre, elle a une portée politique, comme vous disiez. C'est-à-dire que les paysans sont ceux qui sont en bas, et contrairement à ce que pensent les nobles de l'époque de Montaigne, au lieu d'être blâmés parce qu'ils sont en bas et qu'on leur conseille de s'élever, on leur dit « c'est bien, c'est là où tout le monde devrait être ». On parlait tout à l'heure hors antenne de Pascal. Pascal a emprunté à Montaigne la gradation, la fameuse « les humbles, les simples, les demi-habiles, les habiles et les chrétiens parfaits ». Montaigne l'a formulée avant lui. Et c'est dans le chapitre 54 du livre 1 qui s'appelle « des vaines subtilités ». Ce n'est pas tout à fait un hasard non plus. Il parle des métisses, desquels je suis, le cul entre deux selles. Et puis les chrétiens qui ont eu la grâce, disons. Et il dit, ceux qui sont entre deux selles, les métis, desquels je suis, moi, sont ceux qui troublent le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'illusion de savoir, alors que normalement, ils devraient avoir l'humilité de reconnaître qu'ils ne savent pas. Mais le non-savoir, ou l'acceptation du fait qu'on ne sait pas, est la maxime absolument fondamentale qui doit ramener au niveau humble des paysans. L'autre chose, c'est que les paysans sont simples, mais c'est parce qu'ils ne savent pas lire. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, et c'est explicite, ils ne savent pas leurs lettres. Et en tant qu'ils ne savent pas lire, ils n'ont pas la prétention d'avoir un savoir qui pourrait leur donner accès à une vérité qui serait plus vraie que celle des voisins, etc. Ce qui est le cas des protestants, des réformés au moment où Montaigne écrit. Donc on voit que tout est lié avec, entre l'ambition, la présomption, la pensée et la politique.
L'histoire et l'histoire des idées. Vous parlez des métis. Les métis, ce sont les humains, Jean-Yves Pouilloux. Après tout, ils sont entre deux sels, ils sont aussi entre deux règnes. Dans le Ménon de Platon, dont Montaigne fait si grand cas, il y a d'un côté les animaux qui ne savent pas qu'ils ignorent, de l'autre côté les dieux qui savent qu'ils savent. Et il y a entre les deux celui qui sait au moins qu'il ne sait pas, qui est malgré tout la condition humaine et qui, à cet égard, est un règne, entre guillemets, un règne intranquille et peut-être par là même conquérant. Est-ce que Montaigne ne prend pas acte aussi, est-ce que cet homme si sage et en un sens ce professeur de sérénité n'est pas d'abord quelqu'un qui assume la valeur intermédiaire de son règne et qui donc écrit son livre aussi sous le régime de l'intranquillité qui va avec le fait d'être homme ?
Intranquillité, ça ne me plaît pas beaucoup pour Montaigne. Ça me plaît bien pour Pessoa, mais pas trop pour Montaigne. Parce qu'il me semble qu'il a, une sorte de, j'allais dire certitude, c'est un peu trop, mais de croyance très profonde dans le fait que s'il accepte sa limitation, s'il accepte de revenir à lui, il sera beaucoup plus tranquille justement, et non pas intranquille. Que se résigner à sa condition, pour dire les choses dans des termes qui ne conviennent pas très bien, mais enfin qui sont assez parlants, je crois, se résigner à sa condition, c'est une manière de ne pas être malheureux. Et ça, c'est l'ambition de Montaigne. Je crois, dans les essais, ce que je vois de plus en plus, ça fait longtemps que je les fréquente, je vois de plus en plus, c'est qu'il y a un premier souci qui est le souci de la justice. Que les relations entre les êtres humains soient le plus justes possible, ce qui est une utopie, et donc pour lui, d'être le moins injuste possible.
On trouve ici l'écho de l'homme qui a vu la Saint-Barthélemy, été au cœur de ces dissensions.
Et qui n'en a jamais parlé.
Et dont le meilleur ami était un catholique de stricte obédience,
oui.
Mais qui n'en était pas moins extraordinairement tolérant, c'est la Boétie.
Tout à fait, tout à fait. Donc la justice, qui est la première vertu, si je peux dire, à laquelle il est attaché, et la deuxième, qui est la paix. C'est-à-dire le contact avec soi, ou l'aise qu'on peut avoir avec soi-même, c'est ce qui est le but de la vie. On dit beaucoup de choses que je trouve assez fausses sur la préparation à la mort, parce qu'il y a un essai qui s'appelle « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », etc. Et en un sens, on s'est dépêché de rentrer Montaigne dans cette tradition
stoïcienne.
Je vais dire stoïcienne, ça c'était votre façon de le voir il y a un an, mais stoïcienne et surtout chrétienne. Or, si on prend cet essai « Que philosopher, c'est apprendre à mourir », Montaigne dit très clairement « Oui, c'est ça qu'on dit, c'est ça que dit Cicéron, mais la vérité c'est que ce qui nous meut vraiment, c'est le plaisir ». Et ce n'est pas du tout stoïcien ni chrétien. Et qu'une philosophie qui ne propose pas le plaisir comme base d'accord avec soi-même est une philosophie qui est antinaturelle.
Vous avez dit, Jean-Yves Pouilloux, qu'à mesure que vous lisiez Montaigne, vous voyiez, vous sentiez apparaître un autre Montaigne que celui que vous voyez quand vous avez entamé la lecture des essais. Alors il y a plusieurs choses à retenir de cela pour nos auditeurs. D'abord, lire Montaigne est l'affaire d'une vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur cette question de guerre et de paix. On va revenir sur philosopher comme apprendre à mourir, mais sur cette question de guerre et de paix, est-ce que ce livre qui a la paix pour objet, qui fait la paix, ce livre merveilleux qui, comme l'éthique de Spinoza, apporte la paix, est-ce que cette peine ne procède pas non plus de l'aptitude à être, je mets l'expression entre guillemets parce qu'elle est de Nietzsche, en guerre contre soi-même, faire campagne contre soi-même? Au fond, Nietzsche, dans Aurore, le paragraphe 370, dit « il faut toujours faire campagne contre toi-même ». Est-ce que Montaigne ne fait pas campagne contre lui-même en traquant dans ses propres paroles ce qu'elles peuvent avoir d'insincère, de dicté, justement par le corps, par l'opinion, par l'humeur? Et au fond, est-ce qu'il ne cherche pas un lieu où il pourrait penser paradoxalement séparément de lui-même, de manière à être justement dans la paix avec l'autre?
Quand Rousseau accuse Montaigne d'être complaisant à l'égard de soi-même, c'est une très grande injustice à l'égard de Montaigne. Montaigne ne se passe rien. Et il est tout à fait évident que c'est pas du tout, il ne se regarde pas le nombril, il s'étonne. Je vous rappelle que s'étonner, c'est le commencement de la philosophie. Iris est fille de Tomentis, et l'étonnement, l'admiration, comme on dit dans le vieux texte, est le commencement de toute philosophie, admiration au sens de étonnement. Et Montaigne s'étonne lui-même. Il dit « je ne connais monstre plus express que moi-même », qui est une formule qui est un peu brute, mais qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle désigne un véritable travail, un exercice de pensée, qui est beaucoup plus difficile qu'on ne croit, qui vise à essayer de traquer en soi les mouvements inaperçus, les pensées fuligineuses, etc. Il dit « je laisse mon esprit galoper comme un cheval échappé, et j'enregistre ce qu'il dit pour lui en faire honte à lui-même plus tard ». On ne peut pas dire que c'est de la complaisance, là. Donc, de ce point de vue.
Donc vous reprendriez à votre compte l'expression d'être en guerre avec soi-même ?
Enfin, en guerre, ça me gêne un peu, parce que ce n'est pas si violent que ça, mais en tout cas, en essayant de s'écarter de soi-même pour se regarder faire.
D'être sans pitié peut-être.
Sans pitié certainement. La deuxième chose, pour revenir à votre propos, c'est que la relation qu'on peut avoir avec l'autre, avec les autres, est une relation qui est très complexe, comme chacun sait, mais qui repose sur toute une série d'habitudes sociales, qui ont pris le dessus par rapport à des relations réelles de personne à personne. Elles sont donc entachées d'une sorte de vice fondamental que Montaigne désigne, au moins à deux reprises dans les essais, sous le nom de mentir, le mentir. Le mentir est un maudit vice. Et il dit ça dans deux chapitres, dans « Des menteurs » dans le premier livre et dans « Du démentir » dans le deuxième livre. Et il dit que celui qui ment fausse la confiance publique et à la fin dissout la société. C'est-à-dire que la seule voie pour, à ses yeux en tout cas, pour que les êtres humains vivent dans une paix relative, c'est qu'ils soient sincères les uns en face des autres. Mais ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Et si vous prenez l'art de conférer, le chapitre 8 du livre 3, vous vous apercevez que Montaigne dit « il est malaisé, dit, j'aime entre les galants hommes que les mots aillent où va la pensée, hein, mais il est malaisé d'y convier les hommes de notre siècle parce que nous sommes un peu trop tendres, un peu trop souples, un peu trop lâches, tout simplement ». Et que là, ça pose un véritable problème.
Il est assurément difficile d'attirer à cela les hommes de mon temps.
Exactement.
Ils n'ont pas le courage de critiquer les autres parce qu'ils n'ont pas le courage de supporter de l'être. Et ils parlent toujours avec dissimulation en présence les uns des autres. Alors, le chapitre sur l'art de conférer, c'est-à-dire le chapitre 8 du livre 3, est un prodige. Est une merveille, dont vraiment, comme souvent d'ailleurs les chapitres si pertinents et dont la pertinence traverse les siècles, on mesure à quel point, en un sens, il est inutile, à quel point il est vain, d'une certaine manière, d'espérer que les hommes parviennent à cette espèce de sincérité qui permet le débat. Montaigne dit ceci: « Si je discute avec un esprit vigoureux et un rude jouteur, il me presse les flancs, il m'éprône à droite et à gauche, ses idées stimulent les miennes. La rivalité, la recherche d'une certaine gloire, la lutte me pousse et m'élève au-dessus de moi-même, tandis que l'accord est une chose tout à fait ennuyeuse dans la conversation. Or, ses contemporains, comme les nôtres, Jean-Yves Pouillou, en général, ne se réunissent que pour communier dans un accord qu'on appelle un peu rapidement d'ailleurs consensus. Or, cet homme qui fait la paix entre les hommes est un homme qui recherche également l'affrontement loyal et sincère des idées qui ne sont pas seulement des opinions, qui vont au-delà des opinions et de l'hermétisme ou de la fermeture qu'implique le fait de défendre son opinion.
Il faut essayer de repenser à la circonstance historique dans laquelle ça s'est passé. Il a écrit ça au moment des guerres de religion, au moment où le Montaigne où nous sommes là était menacé par les troupes protestantes catholiques, etc. Donc passait d'un côté à l'autre. où il est parti en plus. Enfin, c'était très compliqué la vie à Montaigne à ce moment-là. Et les combats étaient sanglants. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'une famille, Montaigne avait un frère qui était réformé. Donc ça passait vraiment, ça divisait à l'intérieur même d'un groupe, du couple plus resserré. Je dirais des choses que tout le monde sait, mais c'est quand même au nom de la religion qu'on a fait les plus grands massacres de l'humanité, y compris au XXe siècle. Enfin, c'est quelque chose de monstrueux. Et Montaigne a une conscience extrêmement précise de ça. Il dit dans le chapitre 10 du livre 3, qui s'appelle « Déménager sa volonté », il dit que sa position, c'est-à-dire sa tolérance, pour employer un mot qu'il a employé, mais pas très souvent à son propre propos, sa tolérance a fait qu'il était au guelf gibelin, au gibelin j'étais guelf. C'est-à-dire, je fus pelaudé, on m'a pris la peau à toutes mains, de tous les côtés. Et on voit très bien comment, au contraire d'être une position confortable, d'être tolérant est une position extrêmement menacée, extrêmement inconfortable. Ça répondait, c'était pour répondre à la deuxième partie.
C'est également dans le chapitre que vous citez qu'il dit ceci. « La plupart des accords qui concluent nos querelles sont honteux et menteurs. Nous ne cherchons qu'à sauver les apparences et pendant ce temps, nous trahissons et désavouons nos véritables intentions. » Et il faut dire que quand il y a une querelle entre deux communautés, par exemple, je parle au XXIe siècle, bien souvent les représentants des communautés appellent les communautés à raison garder. Or, dans leur esprit, raison garder signifie éviter les sujets qui fâchent. Alors que raison garder au sens littéral, c'est remplacer le coup de poing par l'échange d'arguments.
Bien sûr.
Ce que Montaigne appelle déjà de ses voeux à l'époque. Il n'y a pas de paix sans un dialogue sincère, ouvert ou loyal. C'est-à-dire, il n'y a pas de paix sans un affrontement loyal.
Absolument. J'aime, dans le passage que vous avez lu, j'aime que les mots aillent où va la pensée. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Parce que c'est la seule solution, à ses yeux en tout cas, et je dirais au mien aussi, pour que les compromis, tous les facteurs nocifs... peut-être pas tous, mais enfin que la plupart des facteurs nocifs de querelles entre les êtres humains non pas s'effacent, parce que malheureusement ça ne s'efface pas, mais en tout cas ça pèse d'une manière ou d'une autre.
Au fond, faire la paix, ça n'est pas faire taire les conflits ou les faire taire provisoirement, puisque c'est toujours provisoirement qu'ils se taisent, ils restent comme le diable dans la boîte, mais c'est remplacer la trêve par l'instauration de la concorde qui passe par un affrontement loyal. On pourrait le dire de cette manière.
Tout à fait. Le deuxième point, pour revenir à quelque chose que vous évoquiez au début, c'est que ce conflit existe en moi-même. C'est-à-dire qu'il existe aussi en nous. Nous ne sommes pas des êtres unifiés, nous ne sommes pas très cohérents, nous sommes tiraillés par des désirs contradictoires. Nous voulons et ceci et cela en même temps. Et la question, c'est comment est-ce que je vais arriver à négocier, à construire une manière de me relier à moi-même. Comment est-ce que je peux, est-ce qu'il est possible, et est-ce que je peux le faire, construire une économie de moi à l'égard de moi-même. Et je crois que c'est ça aussi un travail que Montaigne a entrepris, qui passe par, premièrement, la reconnaissance des limitations dont on parlait au début, et deuxièmement, par une forme de souplesse par rapport à soi. C'est-à-dire que Montaigne, et ça a choqué des gens qui étaient des sectateurs de la vertu, ça a choqué beaucoup de lecteurs moraux, Montaigne ne se demande pas d'être bon et vertueux. Il regarde comme il est et il essaie de s'accommoder, c'est un mot qu'il emploie souvent, de s'accommoder de sa manière d'être. Et on voit bien que ça n'est pas bien ou mal, que ça n'est pas vertu ou vice, mais c'est reconnaissance des plis, c'est un mot que j'aime bien employer à propos de Montaigne, mais qu'il emploie lui-même, des plis qui nous constituent. Nous sommes des êtres avec des plis qui sont dus à l'habitude, qui sont dus à la société dans laquelle nous sommes. Parce que je suis ici, à Montaigne, je suis catholique, et je suis catholique parce que c'est la religion du pays où je suis.
Comme on est périgourdin.
Voilà, nous sommes chrétiens à même titre que nous sommes périgourdins ou allemands. Ce qui est une phrase qui est assez bizarre, pas tout à fait à prendre au sens où on l'interprète d'habitude, mais enfin peu importe. Et c'est-à-dire que, en fait, c'est un pli qui nous est donné. Il dit dans un autre chapitre, de la coutume et de n'en changer aisément une loi reçue, dit, les miracles sont non selon l'être de la nature, mais selon l'ignorance en quoi nous sommes de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous appelons miracle, en fait, ça n'est pas un miracle aux yeux de, disons, aux yeux de Dieu. C'est simplement que nous ne savons pas les raisons pour lesquelles les phénomènes se produisent. Et ça devrait me conduire, dans ma manière d'être, dans ma manière de me comporter, et avec les autres, et surtout avec moi-même, à être plus tolérant avec les choses qu'une morale rigoriste pourrait me reprocher. Il y a, autrement dit, j'essaie d'être gentil avec moi. Et c'est une grande leçon, si on réfléchit un petit peu. Il y a un certain nombre de limites à cette gentillesse. La première, je l'ai citée tout à l'heure, c'est le mensonge. La deuxième, c'est la cruauté. Et ces deux limites sont des limites absolues pour Montaigne. Il n'y a pas de transaction possible. On ne transige pas avec les menteurs, on ne transige pas avec les êtres cruels.
Jean-Yves Pouillot, juste un point, peut-être avant d'évoquer la question de la cruauté. Nous sommes chrétiens autant que nous sommes périgourdins, pour les mêmes raisons, je ne sais plus quelle est la formule exacte.
Ou allemand.
C'est extraordinairement subversif, puisque Montaigne est celui qui a la grande sagesse de situer au principe des grandes décisions fondamentales qui engagent tout l'être humain, de ces grandes options fondamentales, hein, être périgourdin, être chrétien. Il a l'audace insensée, quasiment révolutionnaire, de situer des circonstances, des hasards de la vie, bref, des causes qui manifestement ou qui en apparence ne sont pas à la hauteur de leurs effets, ou en tout cas de ce que leurs effets prétendent être. Et donc de siphonner les valeurs absolues en les sous-tendant par des motifs hasardeux, contingents de la vie, je suis né ici, je suis né là-bas, j'ai reçu telle éducation, et ainsi de suite. Cette position qui est extraordinairement subversive chez Montaigne, que Nietzsche reprendra à son compte quand il fera la généalogie de la morale et qu'il situera les passions mesquines au principe des grandes valeurs nobles, cette position extraordinairement subversive de Montaigne s'accommode paradoxalement chez lui d'un certain conservatisme, d'un vrai conservatisme. De la même manière que c'est une coutume d'être chrétien plus qu'un respect pour la vérité, de la même manière, il nous appartient de nous soumettre aux coutumes du lieu où nous nous trouvons. De sorte que cet homme est subversif quand il fait l'origine de nos valeurs absolues, mais conservateur quand il s'agit d'en faire la traduction politique.
Je crois que c'est extrêmement juste ce que vous dites, que vous décrivez de façon très pertinente sa manière d'être. Dans l'apologie de Raymond de Sebon, il dit à un moment que s'il était né sous un autre ciel, et s'il avait eu à chercher un dieu, il aurait préféré le soleil. Ce qui est, quand on le lit, pour un catholique, quand même assez choquant. Et il dit que c'est ça le culte qui lui paraît le plus naturel. Mais la nature est perdue depuis longtemps. Nous avons confondu sa trace de pistes artificielles, dit-il. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un lieu et que ce lieu est régi par une coutume religieuse en l'occurrence, il ne s'agit pas de se poser la question de savoir si la religion est ou non plus vraie sous telle ou telle forme, il s'agit de dire économiquement, le plus opératoire, c'est d'accepter ce qui existe, parce que le refuser est une manière d'introduire le désordre, l'injustice. Et il a, dans le collimateur, si je peux dire, les protestants, les réformés. Parce que les réformés avaient raison, il le dit explicitement, avaient raison dans les réformes qu'ils demandaient.
De ne pas voir le corps du Christ dans l'hostie.
Non, ça c'est une matière théologique, donc ça, ils ne se prononcent pas. Mais ils avaient raison de vouloir que l'Église soit purifiée, qu'on revienne à la simplicité. Il dit quand même très clairement que la seule prière qui lui plaise, c'est le Notre Père. Hein, et que les autres lui paraissent... Alors, pour un catholique, c'est quelque chose d'un peu dur à avaler aussi. Il ne parle pas du culte des saints. Donc il a beaucoup de propos qui peuvent donner à penser qu'il inclinerait facilement du côté de la réforme. Mais il dit aussi, là où ils ont radicalement tort, c'est qu'au nom de la raison qu'ils croyaient détenir, ils ont opéré quelque chose qui a déclenché la calamité, la guerre civile chez nous. C'est-à-dire peut-être qu'ils avaient raison sur les maximes fondamentales, mais ils avaient tort Et c'est ça le conservatisme. Ils avaient tort de vouloir changer un État qui ne vivait que parce que, par la pesanteur des choses. Il a une image qui est tout à fait étonnante, c'est dans l'essai de la vanité. Il dit le roi Philippe de Macédoine avait constitué une ville particulière de tous les mauvais criminels condamnés de son royaume, qui s'appelait Ponéropolis, hein, c'est en Cyrénaïque. Et Ponéropolis, ça veut dire la ville des méchants. Or, il s'est trouvé que, tout méchants qu'ils étaient, ils ont fait exactement comme les grains d'un tas de sable, ils se sont, par pesanteur naturelle, établis, et je pense, dit Montaigne, que leur constitution civile n'était pas pire qu'une autre. Autrement dit, morale et politique sont des opérations disjointes et qu'il faut disjoindre si on veut. C'est ça le conservatisme de Montaigne.
Juste un point, on a évoqué Nietzsche, Pascal, Descartes est montagnien. Quand dans le discours de la méthode, il demande que c'est dans la construction de sa morale provisoire, de sa morale par provision, on se soumette aux lois et coutumes du pays où l'on se trouve. Descartes croit en la vérité, croit qu'il est possible de cheminer de vérité en vérité, et donc il envisage cette morale comme une morale par provision, en attendant d'avoir construit l'édifice de la vérité. Sauf que la vie est provisoire, précisément parce qu'elle s'achève, et peut-être que Montaigne a de ce point de vue un coup d'avance sur Descartes, quand lui ne présente pas comme une morale par provision, mais comme un fait acquis, la nécessité de se soumettre, faute de mieux, aux coutumes du pays où l'on se trouve.
Oui, je crois qu'il y a une grande différence entre les deux, une très grande différence. Bien sûr, sur si je peux dire, l'application pratique de ce qu'ils disent, ça se ressemble. Mais pour Montaigne, c'est une solution purement pratique. Je veux dire, elle n'a absolument pas. Enfin, il est légitime de soutenir les institutions du pays dans lequel on vit. Point. Parce que vouloir les changer, c'est s'arroger la pensée qu'on aurait raison sur l'organisation de la société. Et c'est très profond si on réfléchit, parce que c'est ça qui, dans le cours des siècles, c'est vouloir inscrire une utopie à l'intérieur d'une civilisation ou d'une société, c'est ce qui en général a fabriqué des cataclysmes. Et aboutit à des inhumanités qui étaient bien pires que les mots qu'on essayait de conjurer avec l'utopie.
Vous voulez dire qu'il vaut mieux être conservateur qu'utopiste ?
Pratiquement, oui.
Ce ne sont pas seulement les fièvres, les breuvages et les grands événements malheureux qui renversent notre jugement. Les moindres choses du monde le retournent. Et il ne faut pas douter que, si la fièvre continue peut abattre notre âme, la fièvre tierce n'y apporte quelque altération selon sa mesure et son importance relative. Si l'apoplexie assoupit et éteint tout à fait la vue de notre intelligence, il ne faut pas douter que la grippe ne l'aveugle. Et par conséquent, on peut difficilement trouver une seule heure dans la vie où notre jugement soit vraiment dans son assiette. Vu que notre corps est sujet à tant de continuels changements et équipé de tant de sortes de ressorts, que je crois les médecins quand ils disent combien il est difficile qu'il n'y en ait pas toujours quelqu'un qui aille de travers. Au demeurant, cette maladie ne se découvre pas très aisément si elle n'est pas tout à fait extrême et irrémédiable, parce que la raison va toujours et tordue et boiteuse et déhanchée, et avec le mensonge comme avec la vérité.
C'est
on est dans l'apologie de Raymond II ici. Hein,
c'est tout le passage où il dit qu'en fait aucune... La tradition morale a essayé de mettre les passions dans le mauvais panier, si je peux dire. C'est mal, les passions, etc., etc. Montaigne dit non, pas du tout. Il n'y a aucune grande action vertueuse qui ne se fait sans les passions. C'est-à-dire que tout, en fait, est d'origine affective, passionnelle. Et que c'est ça le point fondamental. Que c'est donner beaucoup trop de prix à la raison que de l'imaginer capable d'éliminer les passions ou de s'en passer. Les passions sont notre armature, y compris intellectuelle.
Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion. Cette fois-ci, c'est Hegel qui s'inspire,
oui,
de Montaigne.
Exactement.
Et avant lui, Spinoza, dans son traité des passions, la troisième partie de l'éthique, se propose de géométriser les passions. On a cru à tort que c'était une façon de rationaliser les passions.
Pas du tout.
C'est en réalité une façon de n'en exclure aucune du champ de la connaissance.
Tout à fait. Tout à fait. Et c'est une manière de reconnaître que les idées sont, si je peux dire, partie intégrante des passions. Enfin, peut-être que c'est brutal de le dire comme ça, mais...
Ou quelles sont des passions elles-mêmes.
Quelles sont des passions elles-mêmes, tout à fait.
Encore un point sur la question politique, justement, conservateur et subversif. Est-ce que vous rangeriez Montaigne dans une tradition politique qui bon, commence à lui peut-être, et va chez Pascal, chez Spinoza, Schopenhauer, ou au-delà chez Hannah Arendt par exemple. C'est une tradition qui n'est pas une tradition de renversement du pouvoir, de subversion du pouvoir, mais de compréhension, c'est-à-dire de subversion par la compréhension des mécanismes du pouvoir. Pascal, enseignant au jeune duc de Luynes ce qu'il doit en être du pouvoir, lui dit voilà la vérité. La vérité, c'est que vous êtes par hasard futur duc de Luynes. La vérité, c'est que vous ne devez pas cela à votre mérite. La vérité, c'est qu'il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc que je vous estime, il est juste nécessaire que je vous salue. Néanmoins, vos administrés, eux, prenez soin, en un sens, de leur cacher cette vérité-là pour que puissent jouer les cordes de l'imagination.
Ça, c'est la différence très nette entre Montaigne et Pascal. Pascal dit explicitement « Montaigne a tort », justement à propos des grandeurs d'établissement. Et Montaigne a tort parce qu'il dit... Alors c'est une phrase qui gratte un peu la peau quand on la lit. Hein. « Les lois qui sont en crédit autour de nous tirent leur autorité, non de ce qu'elles sont justes, mais de ce qu'elles sont lois. C'est le fondement mystique de leur autorité. » Alors ça, c'est une formule que j'ai toujours vue difficile à avaler. Qu'est-ce qu'il dit Montaigne? Il dit « La loi n'est pas juste en tant que telle, n'est pas juste parce qu'elle dit le droit. La loi est juste parce qu'elle est un régulateur social. » est un régulateur en sens pratique. Et c'est en tant que régulateur pratique que la loi est bonne et qu'elle est juste. Mais elle n'est pas juste en elle-même. Et ça, c'est vraiment difficile. Et Pascal pense que Montaigne a tort de dire ça, parce que ça risque d'ouvrir les yeux justement au peuple, et que le peuple, à ce moment-là, risque de prendre la mauvaise direction, c'est-à-dire essayer de faire des lois justes. Mais faire des lois justes, c'est utopique.
Mais c'est, bon. c'est tout le paradoxe de ces auteurs qui écrivent des livres pour dire ce qu'il faut cacher aux gens.
Oui.
En écrivant des livres, ils exposent ce qu'il faut cacher aux gens, comme Machiavel faisant l'éloge du mensonge.
Tout à fait.
Le passage auquel vous faites référence, c'est à la fin des essais, c'est peut-être le plus beau chapitre sur l'expérience. Et avant de parler de ces lois, Montaigne dit ceci. « Nul juge ne m'a encore parlé, Dieu merci, en qualité de juge pour quelque cause que ce soit, ou mienne, ou concernant un tiers, ou criminel, ou civil. » Nulle prison ne m'a reçu, pas même pour m'y promener. L'imagination m'en rend la vue déplaisante, même du dehors. J'ai un tel faible pour la liberté que si l'on me défendait l'accès de quelques coins des Indes, j'en vivrais un peu plus mal à mon aise. Et tant que je trouverais terre ou air ouvert ailleurs, je ne croupirais pas dans un lieu où il faille me cacher. Mon Dieu, que je pourrais mal supporter la condition où je vois tant de gens rivés à un coin de ce royaume, privés de l'entrée des villes principales et des cours et de l'usage des chemins publics pour avoir cherché querelle à nos lois. Si celle que je sers me menaçait seulement le bout du doigt, je m'en irais immédiatement en trouver d'autres, où que ce fût. Toute ma petite prudence dans ces guerres civiles où nous sommes s'emploie à ce qu'elle n'interrompe pas ma liberté d'aller et venir. Disons maintenant que les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont des lois. C'est le fondement mystique de leur autorité, elles n'en ont pas d'autres, cela leur est très profitable.
Et qui leur obéit parce qu'il les croit justes ne leur obéit pas par où il faut. C'est une formule extraordinaire. C'est d'une lucidité extraordinaire. Alors, évidemment, si on dit ça à tout le monde, comme dit Pascal, ça risque de faire du désordre. Et comme dit Pascal aussi, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Ça aussi, c'est une formule qui n'est pas dans Montaigne. Ça, elle est de Pascal. Mais qu'on pourrait, je crois, assez facilement imaginer comme proche de ce que Montaigne ressent et pense. Si vous voulez un petit saut de ce point politique, il me semble que ce qui se produit à ce moment-là, c'est que Montaigne essaie d'avoir les yeux ouverts le plus lucidement et clairement possible par rapport à la confusion dans laquelle nous sommes. Et que cette tentative constante de lucidité le conduit à faire attention à des toutes petites choses qu'on pourrait penser insignifiante. Il dit « De toutes choses, les naissances sont faibles », dit-il. C'est pourquoi il faut avoir l'œil ouvert au commencement. Et ça vaut pour moi...
Repérer l'atténuité des causes, au fond.
Exactement. Repérer les minuscules choses, les petits hoquets, les petits les soubresauts, la chair de poule, enfin, tous ces signes.
Qui sont corps au pied.
Exactement, hein, la dent, etc., etc. Il a une formule sur la justice qui est magnifique. Il dit « Le juge le plus équitable, là où les deux parties en présence sont équivalentes, inclinera pour une des deux pour des raisons qui ne sont pas seulement l'amitié, etc., mais simplement le jour qui passe. Le nuage qui passe devant le soleil suffira à faire incliner le juge vers, un des deux parties. Mais c'est une phrase extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit bien, très bien et très explicitement, et c'est surtout vrai pour lui-même, qu'il faut prêter une extrême attention à soi-même.
Mais est-ce qu'on ne court pas le risque, en lisant Montaigne comme nous le faisons ici, Jean-Yves Pouilloux, et comme on arrive au terme de cette conversation, je me demande, il faut quand même que je vous dise cela ou je vous pose cette question. Est-ce qu'on ne court pas le risque de réduire Montaigne à une forme de cynisme, au fond, qui, faisant la généalogie de la loi, repérant la ténuité des causes sous les grandes décisions, finalement, en viendrait à tenir tout cela pour vain ou pour stérile, et au fond, à poser un œil sans illusion sur le monde. Alors, sans illusion, oui, mais on peut être sans illusion sans être cynique, Jean-Yves Pouilloux.
Non, je ne crois pas qu'il soit cynique du tout. Du tout. Il dit « Le maire et Montaigne ont toujours été deux d'une séparation bien claire. Il faut vivre du... » Alors, il faut que je vous lise exactement la phrase. « Un honnête homme n'est pas comptable du vice ou sottise de son métier et ne doit pourtant refuser... » L'exercice, c'est l'usage de son pays et il y a du profit. Il faut vivre du monde et s'en prévaloir tel qu'on le trouve. Ce n'est pas du tout cynique, vous voyez bien, il ne s'agit pas de ne pas s'engager. Il s'agit d'être le plus lucide possible par rapport à ce qui est le devoir social qu'on a à un moment.
Au fond, c'est une déclaration d'amour à la vie qu'on aurait tort de réduire à la seule critique des grandes causes.
Tout à fait. Il y a deux conséquences de ça. La première, c'est qu'il faut faire attention à soi-même. Quand je me confesse à moi, religieusement, dit-il, c'est-à-dire avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention, je trouve que la meilleure bonté que j'ai a de la teinture vicieuse. Donc même ce que je pense être bien chez moi, si je fais très attention, je m'aperçois qu'il y a une teinture vicieuse. Et l'autre, et donc il faut que j'y sois attentif. Et cette attention à soi-même, elle est absolument essentielle. Elle est, je crois, le leitmotiv de Montaigne, d'un bout à l'autre des essais, à travers toute sa vie, de 72 à 92, pendant 20 ans, d'écriture en tout cas. Et l'autre chose, c'est que ça donne par ricochet ce que j'appelais tout à l'heure une sorte de paix, une sorte d'accord avec les autres, avec le monde, qui est ce que je cherche. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors.
Ça, c'est la fin.
Ça, c'est la fin. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une sorte d'adéquation de mon humeur au monde. Je ne dis pas que j'ai transformé le monde, mais je me suis plié au monde. Je me suis, en faisant attention à moi, je me suis plié au monde. C'est pas très, très révolutionnaire. Mais c'est en fait une révolution intérieure extrêmement difficile, qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas du tout complaisante, mais qui est très difficile à acquérir.
Mieux vaut prendre la réalité pour son désir que ses désirs pour des réalités.
Par exemple.